Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde durant laquelle nous allons explorer ensemble le corps humain. Plus particulièrement, nous allons nous intéresser aux techniques d'imagerie médicale à la disposition des médecins et des chercheurs, à l'évolution de ces techniques et à leur futur. Et nous aborderons également les enjeux associés à leur développement et à leur impact sur la médecine de demain et sur la société. Donc, pour faire ce voyage fantastique, nous avons avec nous deux intervenants. Donc, tout d'abord, à ma gauche, Jean-Claude Duniac, qui...
Bonjour.
Pardon. Qui porte de très nombreuses casquettes, en plus d'un magnifique masque de troll. Il est docteur en mathématiques, avec une thèse sur les supercalculateurs. Il est également ingénieur en aéronautique et expert pour la Commission européenne. Et à côté de cette vie scientifique, ma foi, bien remplie, il a également une vie littéraire très, très active, puisque, bon, on le sait tous, il est parolier de chansons, auteur de romans et de nouvelles, anthologiste, il est chroniqueur de science-fiction et il a été directeur de collection pour Brajlon SF. Et bon, ses œuvres lui ont valu un certain nombre de prix, notamment le prix Rony Aîné à plusieurs reprises, dans la catégorie roman pour Étoile morte et dans la catégorie nouvelle pour Repli sur soi. Nous avons également Emmanuel Coron, qui est, lui aussi assume de nombreuses fonctions. Il est chercheur à l'INSERM, professeur à l'Université de Nantes, praticien hospitalier au CHU de Nantes. Il est spécialisé dans la gastro-entérologie et dans l'endoscopie. Il dirige l'IMAD, donc, qui est l'Institut des maladies de l'appareil digestif, et il préside le GRAF, que j'aime beaucoup l'acronyme, qui est le groupe de recherche et d'action des praticiens hospitaliers en endoscopie. Donc, plus particulièrement, il travaille au développement d'outils d'imagerie innovants, ce qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, permettant d'identifier de nouveaux biomarqueurs pour le diagnostic et le suivi de pathologies digestives ou du cerveau. Pour ceux qui ont peut-être vu le documentaire « Le ventre, notre deuxième cerveau », il a participé à démontrer qu'on pouvait diagnostiquer la maladie de Parkinson avec une biopsie intestinale. Donc, avant de commencer... J'aimerais remercier aussi le professeur Coron ainsi que son collègue Bernard Lardeux qui nous ont transmis des magnifiques photos qui vont défiler en arrière-plan pendant cette table ronde, qui sont issues d'une exposition qui s'appelle « Notre ventre dévoilé ». Donc juste si on pouvait diffuser la vidéo. Merci. Donc voilà, donc pour commencer sur de bonnes bases, avant de laisser un petit peu notre imagination s'envoler vers la science-fiction, Emmanuel Coron, est-ce que vous pourriez nous rappeler un tout petit peu quelles sont les techniques d'imagerie actuelles du corps humain qui sont à disposition des médecins et des chercheurs, quels sont leurs objectifs et leurs enjeux?
Alors, il y a un très grand nombre de techniques d'imagerie qui sont actuellement à notre disposition. Elles sont encore en train de s'accroître, de s'amplifier, puisqu'il y a un champ de recherche assez important là-dessus. Alors, les plus courantes, je pense que tout le monde a entendu parler du scanner ou de l'IRM, qui sont des techniques radiologiques qui permettent d'imager à l'échelle du corps humain, du corps entier. Finalement, là, on cherche des anomalies au niveau d'un organe, mais c'est vrai que ces techniques vont déjà assez puissamment chercher dans la résolution des petites anomalies de l'ordre de 4-5 mm, des tout petits nodules, des petits cancers, des petites zones d'inflammation. Donc c'est déjà des techniques qui peuvent balayer le corps humain par une technologie de tranche optique, en fait. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut aller vers du métabolique, par exemple les PET scans, qui sont des marqueurs où on va chercher la dynamique d'absorption, par exemple, d'un marqueur spécifique. Et si on va aller encore plus loin, il y a vraiment le domaine, moi, qui m'intéresse le plus, qui est celui de l'endoscopie. Vous voyez ici une vidéocapsule du côlon qui défile. C'est-à-dire que c'est des techniques qui sont soit des petits robots, comme on vient de le voir, qui défilent de façon autonome, soit des endoscopes, un bon vieil endoscope. Alors, c'est plus à fibre maintenant, c'est vraiment des techniques avec des super capteurs, des super CCD, des CMOS, etc. Et là, on ne parle plus de chercher des choses de 2, 4, 5 mm, mais plutôt quelques microns, en fait, hein, qui sont disponibles simplement avec des appareils qui équipent les CHU et les centres qui font vraiment de l'endoscopie un peu poussée.
D'accord. Et c'est juste pour de la visualisation ou ça peut être pour de l'extraction, voire même du traitement ?
Alors maintenant, ça devient, tout devient très interventionnel, c'est-à-dire que ces techniques viennent en complément de la chirurgie pour aller à des endroits où le chirurgien a du mal à accéder ou alors pour accéder de façon mini-invasive. Par exemple, les endoscopes sont équipés d'un petit canal opérateur, c'est-à-dire qu'il y a une gaine dans laquelle on peut passer des instruments. Et une fois qu'on a repéré une zone, par exemple un tout petit cancer de quelques millimètres, on peut aller l'exciser avec des mini-bistouris, des choses qui sont des couteaux qui font 1 ou 1,5 mm et qui vont aller couper sous la tumeur. Ou alors des fibres qui permettent de cautériser, de délivrer des courants de radiofréquence ou des courants d'ultrasons pour aller détruire de l'intérieur une tumeur ou d'autres anomalies. Donc c'est vraiment quelque chose, l'interventionnel est couplé maintenant au diagnostic de plus en plus grâce aux nanotechnologies, grâce à la miniaturisation de tous ces appareils.
Donc je suppose que ça permet par exemple de détecter et de traiter les maladies beaucoup plus tôt
Alors, en principe, oui, le problème c'est celui du filtre, parce qu'en fait ce qu'il faut, c'est qu'on ne peut pas appliquer ces techniques qui sont quand même des techniques coûteuses, qui prennent un petit peu de temps, un peu d'expertise, et donc il faut partir de la population entre guillemets française et puis ensuite avoir une technique de stratification pour dire bon là c'est chez tel ou tel patient qu'il va falloir aller cibler ces techniques là. Donc le plus souvent, ça, ce qu'on voit actuellement, c'est le développement de tests, soit de tests sanguins, soit de détection par des marqueurs qui, eux, sont beaucoup moins chers et qui permettent de dire, bon, là, tel patient, par exemple, à 50 ans, a tel test qui est positif, qui s'allume, et du coup, il rentre dans le filtre. Et de plus en plus, ça va être ça, des marqueurs sanguins, des marqueurs salivaires, pourquoi pas des marqueurs fécaux aussi, à partir de sel. Il y a beaucoup de données sur le microbiote, comme quoi c'est effectivement une partie très importante de l'être humain et qui vont pouvoir peut-être prédire un petit peu quel est notre risque de développer une maladie et à ce moment-là, aller vers ces techniques plus poussées, dit Pinchery.
Oui, il y a une tendance en ce moment, et c'est curieux parce que moi je le vis aussi de façon industrielle, parce que ce que tu décris avec justement tes tubes qui passent dans des endroits plus ou moins inaccessibles, je le vis aussi pour ce qui est de la maintenance d'un avion, où effectivement on a des choses qui passent dans les coins. On a cette espèce de grand corps qui est un avion et on a des endroits où on peut difficilement passer et on fait ce genre de choses. Et on a effectivement beaucoup de PET scans et de trucs qui vont observer. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des techniques communes d'imagerie qui ont été employées. Mais surtout, en ce moment, je vois de plus en plus une tendance qui dit l'être humain, chez lui ou dans certains endroits particuliers, peut être capté en permanence. C'est-à-dire qu'il peut être entouré d'une masse absolument phénoménale de capteurs. Les capteurs, c'est de moins en moins cher. C'est des choses qu'on a partout. Je crois qu'on annonce en 2025 qu'il y en aura quelque chose comme 5 quadrillions, un truc comme ça, au niveau mondial. Et par conséquent, on se dit, ben, si on a des toilettes intelligentes qui font des analyses en permanente, si on a des endroits où on se rend sans y faire gaffe, où on est scruté par tout un tas d'analyses, y compris certains repéreurs laser qui peuvent aller à des niveaux cutanés jusqu'à des choses intéressantes. J'ai un ami qui a travaillé là-dedans. Et à ce moment-là, on se dit, on a la possibilité d'avoir un diagnostic ou un prédiagnostic qui dit, vous devriez faire surveiller ça. Et effectivement, on se tourne vers toi à ce moment-là, et on a quelqu'un qui regarde.
Alors, c'est même pas de la science-fiction, ça existe. Et puis, merci de rappeler le rôle de l'industrie aéronautique. Pour la petite histoire, les premiers endoscopes ont été utilisés pour diagnostiquer effectivement les pannes dans les moteurs d'avion, parce que, voilà, avec un tube qui fait 1,50 m ou 2 m de long, on peut aller voir à un endroit où le mécanicien ne peut pas. Et c'est ensuite que ça a été adapté. C'est assez amusant de faire ce parallèle, puisque la petite vidéocapsule qu'on a vue tout à l'heure, et qui d'ailleurs, je pense, peut circuler dans le public si vous le voulez, on a un exemplaire ici, avait été développée au départ par l'armée israélienne, par le Mossad, comme technique de caméra espion. Et puis ensuite, il y a eu une application médicale. Quelqu'un a eu l'idée de l'ingérer et de filmer l'intérieur du tube digestif avec ça. Donc c'est finalement des transpositions de méthodes. Pour ce qui est des capteurs, on le vit. Enfin, le nombre de patients qui viennent avec leur montre, le bracelet connecté, qui regardent le nombre de pas qu'ils ont fait, qui prennent les escaliers plutôt que l'ascenseur, tout ça, il faut l'encourager, mais ça reste très grossier. Ce qu'on voit actuellement, c'est effectivement des capteurs intelligents. On a eu la chance d'inviter à l'IMAD, à l'Institut des maladies de l'appareil digestif, il y a quelques mois, Gary Tierney, qui est un des responsables du MIT à Boston et qui bosse aussi en médical, qui est en train de travailler à une petite puce à injecter. Alors attention messieurs, rien que d'y penser, ça fait mal, mais de l'injecter dans la prostate, en sachant que quasiment tous les hommes vont avoir un jour ou l'autre un petit cancer de prostate, le tout, finalement, c'est peut-être pas forcément de le guérir, c'est de détecter le stade auquel il devient problématique, parce que finalement, tout le monde en aura un jour. Donc il faut plutôt traiter uniquement ceux qui posent problème. Donc d'injecter ça avec la puce, détecte les augmentations de taille ou d'activité de ces tumeurs-là, et c'est à ce moment-là qu'on peut proposer un traitement. Donc c'est des choses qui sont en train de... C'est des capteurs intelligents qui sont en train, effectivement, d'arriver. Et le problème, ça va être plutôt le prix, et puis le choix des stratégies, le choix des outils complémentaires et des stratégies qui environnent ces capteurs.
Et ça pose alors là une question de science-fiction, je m'excuse, je prends ma deuxième casquette, c'est que, comme tu parles, tu le dis, il y a un problème de prix. Par contre, quand on est riche, et je vois ça avec un certain nombre de mes collègues américains de science-fiction qui ont des sous, on peut parfaitement construire autour de soi une espèce de médecin automatique permanent qui te regarde avec des systèmes derrière d'intelligence artificielle plus ou moins élaborés qui détectent des trucs, ou tout au moins qui signalent des trucs. Et donc, tu commences à avoir une population de riches qui va vivre plus longtemps et mieux par rapport à une population qui, elle, ben, elle va échapper à tout ça parce que les diagnostics ne seront pas faits et parce que même si les diagnostics sont faits, ils n'auront pas les moyens d'aller s'offrir le traitement. Et ça, c'est une situation de science-fiction bien connue à laquelle on ne croyait pas, mais qui est en train d'arriver.
Oui, tout à fait. Et c'est déjà un petit peu la réalité. Quand on voit, par exemple, des personnalités riches de pays émergents, des hommes politiques influents qui viennent se faire soigner dans des très grands hôpitaux parisiens, c'est déjà finalement un petit peu quelque part, ça c'est des pays qui de temps en temps ont déjà une médecine qui est tout à fait plus connaître, qui est de très bon niveau, mais ils préfèrent aller encore chercher de la technologie supplémentaire et se la payer, parce que pour le coup c'est vraiment des séjours qui sont évidemment pas pris en charge par la sécurité sociale, donc c'est eux qui prennent l'intégralité des séjours. C'est déjà quelque chose qui existe et qui ne va faire que s'amplifier, en fait. Il va falloir réfléchir très fort là-dessus. Et c'est pour ça que c'est important, à mon avis, d'avoir une stratégie en amont de stratification du risque et de biomarqueurs pour savoir, avec des choses très simples. Il y a des épidémiologistes, par exemple, qui disent bah, « Si vous faites attention toute votre vie à ne pas être gros, ne pas fumer, faire un peu de sport, vous diminuez déjà de au moins 50% le risque d'avoir des pépins cardiovasculaires, un cancer, etc. » Et peut-être des messages très simples de prévention pour pouvoir traiter ça de façon économiquement viable aussi.
Et là, je parle vraiment d'une situation où la même personne aurait des toilettes qui analysent ce qu'il fait pratiquement en permanence, qui aurait un système de prise de sang automatique tous les ans, tous les mois, ou tous les, enfin, je ne sais pas quelle est la fréquence qu'il faut appliquer, et qui aurait une espèce de ce qu'on appelle un jumeau digital chez nous, qui serait un jumeau digital à orientation médicale, qui gérerait l'évolution de tout un tas d'éléments, à la fois au niveau de son imagerie 3D, mais aussi au niveau de ses analyses biochimiques, biologiques, etc. etc. Et c'est en train d'être mis en place.
Mais justement, j'ai envie de poser une question au mathématicien et à l'informaticien qui est en toi. Un des problèmes justement du health monitoring, un des problèmes du health monitoring, donc qui est utilisé dans l'aéronautique, c'est justement la génération d'une quantité énorme de données qui ont besoin d'être traitées, parfois par des algorithmes qui deviennent d'une complexité tellement grande qu'elles ne sont plus vraiment accessibles à l'être humain, puisqu'elles sont vraiment la...
Oui, alors... On est dans ce qu'on appelle le big data, hein, pour résumer, etc., etc. Et on est dans quelque chose qui, moi, m'intéresse depuis plusieurs années, sur lequel j'ai fait pas mal de conférences, s'appelle la matrice attentive. C'est-à-dire le fait que nous sommes entourés de capteurs de données qui nous renvoient, grâce aux données que nous sommes, une espèce de membrane qui nous met au centre du monde, qui nous diffuse les bonnes informations, qui nous observe, qui nous aide. Et ce n'est pas du tout quelque chose à la 1984 avec des caméras espions partout. C'est quelque chose qui est là pour nous aider, ce qui est d'ailleurs tout aussi dangereux. Mais ce n'est pas la vocation de nous forcer à marcher droit. C'est l'idée de vouloir nous rendre heureux, ou tout au moins en bonne santé, ou tout au moins dans un état de bien-être. Et tu parles de problèmes, effectivement, d'algorithmes compliqués, de multiplication de données, etc. Mais on y est déjà. Ça fait 10 ans qu'on y est. Et ça fait très, très longtemps que ces algorithmes-là, on ne les comprend plus. On comprend les principes qui aident à les gérer, on comprend la gestation du truc, mais je veux dire... Nous créons des adolescents de 15 ans qu'on ne comprend plus. Eh bien, on est à peu près à ce stade au point de vue des programmes. C'est-à-dire qu'on a créé des bébés qu'on est capable de maîtriser et puis dont on connaissait tous les tenants et les aboutissants. Maintenant, on est à un stade de gens qui nous disent « j'ai jamais demandé à naître d'abord » et puis qui se débrouillent pour aller en boîte quand ils veulent. Donc, c'est ça, nos algorithmes. Par contre, ces données-là, il faut savoir qu'il y a un gaspillage phénoménal. 99% des données ne sont pas exploitées, faute de temps, faute de possibilité de le stocker, faute de puissance. Mais il y en a de plus en plus. Et c'est parce qu'on peut les exploiter et parce qu'il y a de temps en temps des gens qui décident que c'est important et qu'ils y consacrent les moyens qu'à ce moment-là, on arrive à des choses étonnantes. On peut parfaitement se faire surveiller médicalement 24 heures sur 24 par des tas de choses en se faisant implanter une puce ou deux en sous-cutané, en ayant, comme je dis, une maison qui capte un certain nombre de trucs et d'avoir derrière des grosses machines qui moulinent et qui, à un moment donné, te disent « attention, tu vas être constipé demain ». Tu vois ce que on peut le faire. Et il y a des gens qui ont les moyens de se le payer, c'est clair. Et de plus en plus, la question qui va se poser, c'est au niveau d'un État, est-ce que j'ai intérêt à investir là-dedans parce que je fais de la prévention, je m'arrange pour que les maladies ne se développent pas trop vite ou quelquefois je les repère plus tôt et à ce moment-là, j'ai des travailleurs en meilleure santé qui rapportent plus d'argent et qui coûtent moins d'argent à la sécurité sociale. Est-ce que j'investis là-dedans? C'est une des questions de société, je pense.
Oui, le facteur humain, il est majeur. C'est-à-dire, on sait bien, pour reprendre cet exemple, par exemple, le dépistage du cancer colorectal, qui est un enjeu majeur, ça fait partie du plan cancer, c'est 40 000 nouveaux cas par an, 30 000 ou 35 000 décès, c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde, tous sexes confondus, donc c'est vraiment quelque chose qui pèse très lourd sur la santé des hommes et des femmes en général, et qui peut être détecté de façon simple en deux stratégies. Le premier test chez le médecin généraliste à 50 ans avec la bandelette qui détecte la présence donc de cellules anormales qui sont voilà. Et ensuite, si le test est positif, on fait la coloscopie. C'est hyper simple. Et bien, il y a une proportion toujours à peu près identique, quelles que soient les actions qui sont faites par les encouragements par le médecin généraliste, par les médecins autour, une proportion de patients qui ne veulent pas être pris en charge, ne veulent même pas faire la bandelette, ils trouvent ça trop contraignant, ils veulent qu'on les laisse gérer leur santé et ils prennent le risque. Et c'est vrai que ça pèse lourd pour un État, jusqu'à quel titre on peut obliger ou pas les gens à faire ça. Je crois que c'est une problématique très importante. Il y a des pays notamment où les populations sont difficiles à gérer, le Groenland, certains pays arctiques, etc., où ils font passer les messages dans des feuilletons, en fait. Et ils s'aperçoivent que ce qui marche le mieux, c'est de... Voilà, dans un épisode, John a un cancer du côlon parce qu'il n'a pas fait le test, et du coup, c'est là que la population va ensuite massivement faire le truc. Peut-être pour revenir sur le jumeau digital, qui est vraiment quelque chose de très intéressant, on peut aussi... rappeler que c'est quelque chose qui existe à l'heure actuelle. Par exemple, il y a des centres de chirurgie où, avant une intervention, le scanner qui a été fait au patient qui montre la petite tumeur, par exemple, à opérer, peut être reconstruit de façon 3D et le chirurgien prend la main comme dans un simulateur, finalement, c'est ce qu'on appelle de la réalité augmentée, et il va pré-repérer, finalement répéter l'intervention de façon simulée avant de la faire le lendemain ou quelques jours plus tard chez le patient, grâce à des techniques comme ça de reconstruction 3D, chez finalement, on pourrait appeler ça peut-être un jumeau digital du patient. C'est des choses qui existent et qui vont encore s'accroître.
Ça, chez nous, en tout cas, je peux te dire que c'est quelque chose qui existe, parce que tu as des gens qui font de la maintenance ou même du montage d'avions, qui ont le casque HoloLens et qui, par rapport à la réalité, voient superposer. Attention, tu dois mettre le tuyau à cet endroit et tourner avec une clé à 25 PA, par exemple, et pas 30, et avec une clé connectée qui va dire, là, tu t'arrêtes. Si tu forces trop, tu vas me péter le truc. Et tu peux aussi avoir la possibilité d'avoir un chirurgien qui ouvre et qui, à certains moments, va superposer à ce qui est là des choses qui devraient y être ou ne pas être ou être différentes, voire même tous les résultats médicaux correspondant au dossier de la personne qui sont associés. Parce que ça, c'est une chose qui me frappe à titre personnel. Bon, j'ai eu un certain nombre d'interventions ces dernières années, cardiaques et autres, et à quel point l'information me suit. C'est-à-dire, quand je vais voir quelqu'un qui est un gastro-entérologue, il a accès à la totalité de mon dossier médical via le DMP, via un certain nombre de choses, et il a des pages et des pages d'analyses, de photos, de clichés, de trucs. Il me connaît de l'intérieur beaucoup mieux que ne le faisait n'importe quel autre médecin de l'époque. Je suis fils de médecin généraliste. Mon père aurait trouvé ça extraordinaire, je pense. Et il était le seul, en fait, à avoir rassemblé cette information-là, puisque dès qu'on allait voir les spécialistes, il avait une lettre qui faisait un compte-rendu, il avait quelquefois des radios, mais il n'avait rien d'autre. Tandis que maintenant, on a véritablement ce jumeau digital et on arrive à un stade où on va peut-être pouvoir imaginer qu'un scanner grossier, je ne dis pas un scanner avec le niveau de résolution auquel tu as, mais un scanner grossier, ça pourrait être une cabine de type photomaton dans laquelle on ira se mettre en maillot de bain ou en tenue d'ailleurs plus légère et où, moyennant 15 balles ou 20 balles ou 50 balles peut-être, on aura une image 3D qu'on conservera et qui servira de test référent pour plus tard.
Oui, tout à fait. Je suis assez vieux, j'ai assez de cheveux blancs pour avoir été étudiant en médecine du temps où c'était vraiment les dossiers papier qui étaient archivés. Alors, c'était derrière l'hôpital Nord, à la Chauvinière, derrière la Hennec, dans des hangars, en fait, des kilomètres de dossiers. On sortait ça. D'abord, il ne fallait pas être asthmatique, il y avait de la poussière comme pas possible. Et une bonne partie du boulot de l'étudiant en médecine, c'était de classer les papiers. Effectivement, il y avait des problèmes de risque d'identité, donc d'identito-vigilance. Il y avait des problèmes de mauvais classement, etc. Bon, on peut dire ce qu'on veut sur l'ordinateur. C'est vrai que les choses vont beaucoup plus au bon endroit, sont retrouvées de façon beaucoup plus fiable. Et effectivement, le partage d'informations d'une spécialité à une autre, d'un médecin à un autre, et le DMP inclut aussi le pharmacien, qui lui aussi va pouvoir dire « Mais attention, votre médecin vous a prescrit tel médicament, mais moi, ça peut interagir avec tel autre. Il n'était peut-être pas au courant que vous aviez celui-là ou qu'il y avait tel risque avec vos autres maladies. » C'est des choses qui, effectivement, accroissent la sécurité de façon très importante. Et je pense que ça n'est que le début, effectivement.
Et je rajoutais une chose. On rajoute à ça quelque chose qui est en train de rentrer dans la société et qui est en train de la bouleverser de manière fondamentale sans qu'on s'en aperçoive. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique, c'est-à-dire l'approche par des modèles. On construit des modèles. Je vous donne un exemple tout bête. Je vais me faire analyser le sang assez régulièrement parce que je suis prédiabétique, donc on mesure mon taux de glycémie, des choses de ce genre. J'ai une feuille avec des résultats. Ma feuille de résultats, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, comportait en référence des endroits où il y avait un problème, le résultat précédent. Donc on pouvait savoir quelle était la variation. Maintenant, j'ai carrément la possibilité d'avoir la courbe de mes résultats sur 5 ans, les tendances et une analyse de tendance qui est fournie automatiquement par des processus dont tu parlais, les fameux algorithmes. C'est-à-dire que comme ils ont la donnée et qu'ils la conservent, à ce moment-là, on n'attaque pas seulement une vision à l'instant T, on n'a pas une photo, on a toute, je dirais, toute l'évolution, quelque chose de dynamique et quelque chose avec lequel on peut jouer. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement dire si tu continues à ce rythme, dans 6 mois, voilà où tu seras. Voyez. Or, ce travail systémique, il est extrêmement important parce qu'à un moment donné, on peut alerter le malade en disant si tu fais rien, regarde, les courbes le montrent, là, tu es mort. Ou là, tu as tel problème. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement parlant pour un malade, beaucoup plus que de dire oui, là, tu as ça. Parce qu'il va dire ah ouais, mais tu comprends, il y a 15 jours, je suis allé chez ma belle-sœur, j'ai mangé plein de trucs, ça s'explique. Non, là voilà la courbe, voilà la tendance, tu es là. Et ça, c'est, comme tu disais, c'est un phénomène, cette approche systémique, qui fait que l'humain, le corps humain, est constitué maintenant, pour sa représentation du point de vue du malade, comme un ensemble de systèmes interconnectés. En plus, on n'a pas un médecin du cœur, un médecin du côlon, un médecin de l'intestin ou un médecin du cerveau, on a un médecin systémique. C'est-à-dire, je travaille sur l'ensemble des éléments du système qui interviennent là-dessus. Si je travaille sur la circulation sanguine, je suis obligé de parler du foie, mais je suis obligé de parler de la moelle épinière, je suis obligé de parler de tout un tas de choses qui se mélangent, parce que ça intervient sur le système. D'accord ? Et à ce moment-là, on a quelque chose qui est une approche qu'on tourne vers le malade en disant « on sait plein de choses de toi, et en particulier on est capable de te prévoir ». Et ça, c'est une idée qui relevait de la science-fiction il y a 10 ans, et qui maintenant n'en est plus.
Oui, on est arrivé vraiment à concrétiser finalement... Le fait de poursuivre, c'est un peu le carnet de santé qu'on avait quand on était môme, où tout était consigné finalement. Et puis le truc s'arrête au bout d'un moment. Quand on nous demande de retrouver le carnet de santé, on est étonné de voir le nombre d'informations qu'il y avait là-dedans. Et là, c'est finalement la numérisation de cet outil-là et le fait de le poursuivre tout au long de la vie. En plus, comme tu dis, de le multiplier sur des populations entières, on est dans le big data. On est dans quelque chose qui devient très pointu, pas forcément évident, hein, sur le plan statistique, ça doit être... moi, je n'y connais rien en statistique, c'est pas mon métier, mais je suis assez impressionné des compétences qu'il faut pour gérer ces données-là. Et finalement, on arrive à avoir un grand nombre de données, peut-être une nouvelle notion, c'est au-delà de la santé même de la personne, c'est pour les médecins la possibilité aussi de former mieux les nouveaux médecins avec des grosses databases, en fait, des gros volumes d'informations, par exemple de la reconnaissance d'image ou de la reconnaissance de situation. On peut fournir d'emblée à des jeunes médecins un set d'entraînement. Et maintenant, les jeunes médecins travaillent comme des gamers, quelque part. Ceux qui sont dans l'imagerie ont accès effectivement à du matériel sur Internet, bien sûr contrôlé par des universitaires, par de l'académique, mais c'est voilà, un volume de données tout à fait considérable pour non seulement soigner, mais aussi former et se former.
Et puis du coup, on peut aussi se poser des questions qui étaient simplement inimaginable à l'époque. Je vais donner un exemple bête. Je prends des médicaments justement pour ne pas devenir diabétique. Je les prends, j'en prends 4 à 5. Et on m'a demandé de participer à une enquête qui a capturé énormément de données de ma vie pendant un an, simplement pour savoir dans quel ordre je devais les prendre. Ça a l'air idiot, hein, mais je prends plusieurs médicaments, à la fois pour le côté cardiaque et le côté truc. Est-ce qu'il y a des interactions? Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne celui-là en début et tel autre à la fin, etc. Donc on a étudié un ensemble de variétés. Mais comme ils l'ont étudié sur plusieurs milliers de personnes, ils ont obtenu un ensemble d'échantillons qui leur ont permis de faire une analyse en disant « ça, ça a l'air marginalement mieux ». Et à un moment donné, d'arriver à dire « la meilleure solution, c'est peut-être de commencer par celui-là et de finir par celui-là ». Pour nous, c'est pareil. Pour la sécurité sociale, c'est le même prix. Pour le médecin, c'est la même chose. Mais pour le malade, il y a un léger mieux. On n'a pas trouvé de choses extraordinaires, semble-t-il, mais au moins du mieux, en disant « commence par celui-là et puis fais-le après par celui-là ». Et là, on renvoie vers le pharmacien ou vers le fabricant de notices du médicament en disant « il vaut mieux le prendre en début de repas, à la fin de repas, ou si vous prenez tel autre médicament, de le prendre après, et si possible en ayant mangé entre les deux ». Et ça, c'est le genre de questions que le big data permet, et permet de manière, je dirais, profondément naturelle. On peut attaquer cette espèce de nuage de données par tout un tas d'axes. Alors qu'à l'époque, c'était simplement inimaginable. On a gagné une dimension.
Oui, et ça ne repose pas sur le simple feeling qui était évidemment très médecin dépendant auparavant. Prenez plutôt celui-là, prenez-le plutôt à jeun, etc. Effectivement, tu as raison, là, c'est des choses très pratiques, très concrètes, qui sont à notre portée. Je crois qu'il y a un écueil, on est là aussi pour parler des problèmes et des difficultés à venir, c'est l'interfaçage des systèmes en fait, de santé, parce qu'on voit un nombre de logiciels médicaux complètement considérables arriver. Ils sont choisis en fonction de, je pense, plein de paramètres. D'abord la sécurité, la possibilité de lutter contre le piratage informatique, probablement leur prix, leur maintenance, etc. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qui menace un petit peu le big data, c'est-à-dire la difficulté d'interfacer les systèmes entre eux. Et alors qu'on devrait être dans l'Europe en train de dire ok, bon, on se met avec les Allemands, les Italiens, les je sais pas quoi, pour avoir à peu près les mêmes problèmes.
On le fait. Contrairement à ce que tu crois, justement, ce travail de standardisation, d'interfaçage des données et de, je dirais, de transmission en open source, tout au moins de ce qu'on appelle les queries, c'est-à-dire les demandes, c'est quelque chose qui commence à être vraiment bien implémenté et au niveau mondial. Et crois-moi, à l'Europe, il y a beaucoup dépensé d'argent dessus et ils continuent. Je suis expert européen, je travaille un peu sur le sujet et c'est vrai qu'ils le font.
Justement, j'aurais une question, c'est que sur la notion de partage de données, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle donnée qu'on va partager, c'est nos données personnelles, plus que personnelles. Comme tu dis, sur des choses qui peuvent être prédictives de notre comportement et notre santé future. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête sur justement, pour le coup, les aspects génétiques et sur justement l'anticipation de nos futures maladies, qui est bienvenue à Gattaca. On a clairement vu que le code génétique et le fait qu'on soit capable justement de prédire des événements médicaux à partir du code génétique, justement, a conduit à une forme de discrimination, à une forme de, aussi bien, on va dire, sur le professionnel que, par exemple, dans la vie sentimentale. Et du coup, le risque qu'on a, c'est que ces données, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, mon employeur, mon assurance, ma banque y ont accès?
Oui, ça, ce sont de vraies questions. Par contre, il y a deux choses différentes. Il y a, à partir de ce qu'on appelle ta génétique, ton code génétique, ton décodage ARN et ADN, être capable de prédire ce que tu vas devenir, c'est, je dirais, pour certaines choses, oui, mais pas... Enfin, ta vie amoureuse, à mon avis, relève de tout un tas d'autres facteurs. Par contre, je peux dire une chose, je vais être provocant. Si j'avais, sur mes parents et mes grands-parents, le même nombre de données que je dispose sur moi, je serais certainement mieux soigné. Parce qu'on pourrait faire un travail de transmission génétique qui montrerait qu'il y a des lignées dont on sait qu'elles sont plus sensibles à telle chose que... Et donc, si j'avais ces informations-là, ça serait très bien. Je ne les ai pas. Mais mes enfants les auront. Ça, c'est une chose. D'autre part, il y a aussi une chose par rapport à ce qu'on appelle les données. Il faut savoir que, pour l'instant, 99.99, avec plein de neuf de données, sont utilisées de façon anonymisée. C'est-à-dire que les seules données qui sont utilisées de façon personnelle sont celles qui te concernent directement, la fameuse matrice attentive dont je parle, qui interagit avec toi. Mais ce qu'on transmet aux autres, c'est de la donnée anonymisée. Typiquement, vous avez un radar qui repère les dépassements de vitesse. Il va repérer le fait que c'est votre voiture avec votre numéro d'immatriculation et une photo de vous au volant pour dire vous avez dépassé la vitesse autorisée. Donc là, on est vraiment dans la truc très spécialisé. Par contre, vous avez en même temps le même radar qui va dire il est passé 452 voitures pendant l'heure sur cette route-là. On se fiche de savoir quelle voiture, on se fiche de savoir à qui elle appartient, quel modèle, etc. C'est juste pour dire cette route est embouteillée ou ne l'est pas, ou il faut prévoir tel type de dégâts. Ça, c'est de la donnée anonymisée. Et énormément de données sont anonymisées parce qu'en fait, ça ne sert à rien de savoir que c'est M. Dupont et Mme Durand qui sont passés sur cette route à tel endroit.
D'accord.
C'est ça, le truc. Et ce qui est en train de se passer au niveau de l'imagerie... Alors là, je me retourne vers toi pour pas dire de bêtises, mais j'ai un peu bossé avec eux là-dessus, vu du côté aéronautique. C'est qu'on adjoint à la prise d'image, aux capteurs, comme tu dis, des capteurs intelligents, c'est-à-dire qu'on y rajoute de l'intelligence artificielle qui est capable d'analyser. Quel est l'avantage que ça a ? Par exemple, vous êtes en train de faire une mammographie. On fait une radio de votre sein, si je puis dire, de façon... Eh bien, supposons qu'on voit quelque chose. Ce que va faire la radio, c'est de vous photographier le fait qu'il y a peut-être quelque chose. Mais l'intelligence artificielle derrière va dire, s'il y a quelque chose, j'ai peut-être intérêt à bouger un peu l'appareil pour prendre un cliché dans cet axe-là, pour faire un deuxième truc qui en verra plus, voire même changer mes réglages parce que la densité du sein empêche qu'on voit réellement ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans la même fraction de seconde, vous aurez d'autres photos qui seront prises qui aideront à corroborer ou à compléter le diagnostic. Ça vous évite, vous, de revenir pour une deuxième série de radios si on a détecté quelque chose. Ça a, par contre, l'inconvénient de savoir que c'est l'intelligence artificielle qui prend la décision, donc on peut décider de ne pas les lui donner. Elle peut afficher un truc sur le radiologue qui est à côté en disant « Moi, je prendrai une photo là, qu'est-ce que t'en penses ?» Et c'est le radiologue qui décide. Ça a aussi l'effet qu'on prend plusieurs radios et que les radios ont un effet. Je veux dire, elles ont un impact. Bon. Ça peut ne pas nécessairement être coûteux, mais en tout cas, ça peut avoir un effet sur votre corps. Donc, on a une situation dans laquelle on a un assistant permanent qui est prêt à faire des choses de plus en plus élaborées, non pas pour diagnostiquer, mais pour aider au diagnostic.
Oui, je crois que c'est très important de faire cette précision-là parce qu'il pourrait y avoir des inquiétudes sur le remplacement du médecin par un ordinateur. En fait, ce n'est pas du tout ça qui est prévu ou qui est annoncé. C'est effectivement une aide et que la décision finale, elle soit de toute façon humaine pour dire c'est cette stratégie-là qu'on va valider. Mais effectivement, l'ordinateur n'est jamais fatigué. Lui, il peut enquiller les examens à longueur de temps. Il n'y a aucun problème. Il n'est jamais malade, etc. Et puis, c'est vrai qu'on est arrivé à un stade... Moi, j'ai vu, là, il n'y a pas longtemps, des démos, par exemple, pour reprendre l'histoire du cancer colorectal et du dépistage, de systèmes de guidage donc pendant la coloscopie où on voit l'image défiler. Et puis l'ordinateur vous dit là il y a quelque chose, un peu comme dans Star Wars avec le viseur là pour vous dire attention là il y a quelque chose. Du coup on se rapproche et il vous dit c'est un polype et de telle nature, parce qu'il y en a qui cancérisent et il y en a qui ne cancérisent jamais. Donc il dit voilà, je pense que là il y a un polype, et puis quand on le cible bien, il vous dit ce que c'est. Et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que chez des médecins moins entraînés ou moins experts, ça peut rattraper certaines situations. Et puis, c'est aussi la possibilité peut-être d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'œil humain en imagerie, il va prendre une décision, il va dire « je pense que c'est plutôt ci ou plutôt ça », mais basé sur uniquement de l'expérience. Alors que l'ordinateur, lui, va effectivement numériser certains paramètres, par exemple la densité lumineuse dans l'image, la quantification de telle zone en disant « voilà, elle fait exactement tant de millimètres carrés, elle a exactement telle zone » et statistiquement, ça correspond dans 99,9% des cas à un polype cancéreux. Voilà. Et donc ça, c'est la possibilité de transformer quelque chose de qualitatif en quelque chose de quantitatif et du coup plus fiable. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de plus modélisable. Et ces choses-là existent. C'est-à-dire que dans les congrès actuels, on voit les premières données, les premières études sortir d'intelligence artificielle pour vous trier les images, vous montrer tel diagnostic ou tel diagnostic, et même aller un peu plus loin. Ce que tu disais, le fait d'avoir accès à l'ensemble du dossier, de dire par exemple, tel polype cancéreux, est-ce qu'il est obligatoirement à faire opérer par un chirurgien ou est-ce qu'il peut s'enlever par coloscopie? Ça va dépendre aussi de l'âge du patient, de tous ses antécédents, de ses médicaments, etc. Il va rentrer tout ça dans la machine et il va dire ben, il vaut mieux le faire opérer avec un chirurgien parce qu'on va avoir tant de pourcents de chances que le résultat soit plus complet et finalement pas plus de sur-risques. Donc c'est des choses qui sont des modèles qui deviennent de plus en plus complexes et c'est là où ça aide aussi le médecin parce qu'on n'est plus uniquement dans une stratégie, uniquement d'imagerie, mais on prend l'ensemble du patient dans sa globalité en compte.
Et ça pose un problème que tu connais bien, que tu as décrit, qui est celui de la décision. C'est-à-dire, c'est le problème qui est au cœur de toute activité big data, de toute activité autour de cette masse de données qu'on analyse, c'est qu'est-ce qu'on autorise le système d'analyse dit intelligent à faire. Quelle est l'action qu'on peut faire? Alors, l'exemple classique, c'est dans votre maison. Est-ce que vous autorisez l'intelligence artificielle qui analyse tout un tas de choses à éteindre la lumière quand vous quittez la pièce? La réponse est, pour la plupart du temps, oui, parce que, dans le fond, il n'y a pas de risque. Bon. Alors, évidemment, si vous êtes dans une maison dans laquelle vous avez une personne en chaise roulante qui se déplace peu, vous pouvez vous dire, ah oui, mais ça va éteindre la lumière, et lui, il n'a pas bougé, et le système s'en est pas aperçu, mais il est quand même là. Donc, est-ce que le système est suffisamment intelligent pour coupler le détection de mouvement avec le repérage en infrarouge pour dire qu'il y a quand même une personne à tel endroit? C'est déjà un système plus élaboré. Mais ensuite, vous vous dites, tiens, est-ce que j'autorise la personne, on reprend l'exemple de ma mammographie, à prendre des radios? Si oui, j'en autorise combien? Et à ce moment-là, est-ce que j'oblige le système à consulter le dossier médical de la personne pour dire qu'elle a déjà été beaucoup traitée au rayon, donc on va peut-être faire des dégâts, donc on n'autorise pas? D'accord ? On introduit ce genre de choses. Ou à un moment donné, on dit, on ne lui autorise rien du tout, et on fait le rapport à quelqu'un humain qui autorisera. Qui n'autorisera peut-être pas plus intelligemment, mais dont on aura l'impression que le système est maîtrisé humainement parlant. Or, cette notion de maîtrise humainement parlant, elle est assez profondément illusoire dans beaucoup de cas, parce qu'en fait, l'humain se base sur les informations qu'on lui donne, que l'intelligence artificielle lui donne elle-même. Et elle ne les truque pas, elle n'essaie pas de conquérir le monde, elle donne les informations. Mais si elle a manqué quelque chose, eh bien, l'information que recevra le médecin pour prendre la décision ne sera pas bonne. Donc le problème de la décision, il est sur ai-je la bonne information, ai-je le droit et la capacité d'agir, et ai-je confiance en ma décision? Et ça, dès qu'on touche au médical, ça devient des problèmes qui sont vraiment, vraiment au cœur de l'idée qu'on se fait des choses. Et croyez-moi, c'est... Dans les années qui viennent, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous, vis-à-vis de votre propre corps, vous avez le droit de faire et vous avez le droit de, je dirais, de regarder, de montrer et de donner à voir ou de donner à décider.
Et juste une, je vais un tout petit peu changer de sujet, mais il y a une grande, va dire, une grande thématique dans la science-fiction qui est les nanorobots, c'est-à-dire vraiment des machines en nous, capables de détecter justement les problèmes, justement, et de les traiter. Quand on voit justement cette fameuse capsule qui se déplace dans le corps humain, ça commence à y ressembler un petit peu. Donc, est-ce que c'est le genre de chose qui va être à l'avenir possible? Est-ce que ça va être une des grandes évolutions majeures des années à venir?
Oui, je pense que indubitablement, le fait que ces machines soient dans des matériaux biocompatibles, qui sont totalement safe pour les patients, qui ne sont absolument pas ressentis, pas symptomatiques, et qui deviennent de plus en plus intelligentes. C'est-à-dire que là, c'est une version simplissime, c'est en fait une capsule avec deux têtes qui sont des caméras qui prennent en fait un grand nombre d'images par seconde pour visualiser la totalité du tube digestif. Ceci dit, quand elle fait ça, elle fait quelque chose qui est plutôt intelligent, c'est qu'elle part, elle va de la bouche à l'anus finalement, et elle voit la totalité du trajet, ce que ne fait pas en fait un examen classique qui est limité par la longueur du tube. Donc déjà, il y a un petit avantage. Ensuite, là où elle devient de plus en plus intelligente, c'est qu'elle est maintenant contrôlable par des joysticks dans des champs magnétiques, et à l'avenir, elle va pouvoir elle-même avancer, reculer, se mettre dans tel angle, pouvoir, comme tu dis, dire telle image n'était pas bonne, je la reprends. Et il y a des versions prototypes qui sont équipées de capteurs avec des petits bras articulés qui permettent d'aller chercher du tissu, prélever des bactéries, prélever des échantillons et les ramener ou les analyser même sur place. Donc ça, c'est des choses qui vont probablement se développer. tout est encore matière d'économie, là aussi ça joue un grand rôle, mais on voit l'arrivée des Chinois en fait qui arrivent, qui eux commencent à fabriquer ces systèmes-là avec des prix beaucoup plus bas et des choses qui, voilà, qui arrivent sur le marché mondial. Donc ça va sûrement se développer. J'imagine qu'il y a la même chose pour des petites puces qu'on peut implanter au niveau cérébral, au niveau d'autres organes. Je connais plus le tube digestif, mais effectivement, ce qui est possible là l'est ailleurs, sans, à mon avis, sans grosses difficultés techniques.
Et pas. Vas-y, je t'en prie. Oui.
Et en plus, il y a une tendance maintenant qui va nous arriver dessus, qui a déjà démarré. C'est tout ce qui est lié, je dirais, au transhumanisme, en particulier côté américain, qui, grosso modo, fait qu'un certain nombre de milliardaires qui ont 40 ans maintenant, ou tout juste, qui commencent à avoir peur de la mort et qui sont prêts à dépenser des fortunes, mais des fortunes, ça se compte en milliards de dollars, hein, pour essayer de faire reculer l'heure de la mort et de la leur en particulier. Donc, ils travaillent tout azimut, à la fois pour des cocktails de substances particulières, des greffes avec des objets qui leur permettront, par exemple, de régler leurs problèmes d'arthrose avec des articulations d'un certain type, des capteurs intelligents, tout un tas de choses. Mais la différence par rapport à il y a quelques années, c'est tout simplement qu'il y a énormément d'argent injecté là-dedans. Et quand je dis énormément, imaginez qu'on est dans l'ordre du budget d'un pays africain pour faire reculer la mort, mais pas nécessairement pour tout le monde, pour les gens qui auront le moyen de se le payer. Pour la petite histoire, David Breen, qui est un auteur de science-fiction, là, fait en ce moment la publicité sur Facebook, par ses messages, d'un ensemble, d'une espèce de cocktail médicamenteux qu'il a mis au point, enfin, qui a été mis au point par une société à laquelle il a contribué et pour laquelle il a donné de l'argent. Et il dit, ça marche, moi je l'utilise depuis un certain temps et j'ai vieilli d'à peu près 5 ans, 10 ans. Et donc, il y a des gens qui peuvent. Et évidemment, les gens qui ont les moyens de se payer ça ont aussi les moyens de favoriser ce genre de recherche.
Et tu fais le lien avec le transhumanisme, mais est-ce que justement c'est pas le genre de technologie qui va être par exemple nécessaire si on veut s'orienter vers des, je sais pas, vers l'exploration spatiale à longue distance ou même la colonisation d'autres planètes?
Mais excuse-moi, mais c'est typiquement le genre de question qui est avant tout une question sociétale. Si tu donnes l'immortalité à tout le monde va être content et tout le monde va mourir puisqu'on va très vite épuiser les ressources qui est le truc et on va tous mourir. On va tous mourir de quelque chose qui est merveilleux, voyez. Donc la question de savoir l'auto-limitation qu'on est censé s'appliquer est une question sociétale qui est gravissime parce qu'on a les moyens de le faire. Ça veut dire que des gens le font. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on a les moyens de le faire, ça s'arrête. On a les moyens de le faire, donc on le fait. On a les moyens de faire du clonage humain, donc il y a des gens qui essayent. On a les moyens de faire ces techniques de prolongement de la mort pour vivre jusqu'à 120, 130, 150 ans, donc les riches ont les moyens de le faire. Et comme tu dis, c'est intéressant pour l'exploration spatiale et pour d'autres, mais c'est avant tout une question sociétale. D'accord ? Et ça, c'est là que, quelque part, le fait que les données soient disponibles, le fait que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes devenus un système complexe, en tant que tel, géré de manière univoque, en tant que tel, comme nous-mêmes, système complet, c'est aussi le fait de se dire, attends, on met chaque individu au centre du monde, et qu'est-ce que ça donne comme société derrière? Dans nos mondes à nous, c'est en train de se produire. Et c'est certainement une bonne chose pour chaque individu, et c'est pour moi une catastrophe à l'échelle de la société.
Oui, alors ensuite, d'un point de vue, je dirais, peut-être sur un échantillon, certes limité, mais quand on voit des patients qui sont avec des problèmes de santé graves, sévères, etc., leur plupart du temps, leur demande n'est pas de repousser la limite de la mort, mais plutôt d'essayer d'améliorer un peu le confort de vie et le mieux vieillir est peut-être une problématique qui est, à mon avis, recherchée par un plus grand ensemble. Le fait de repousser la mort avec des milliardaires américains, oui, c'est vrai que ça, sûrement ça existe, et sûrement qu'il y a les possibilités de faire des choses techniquement qui sont impressionnantes là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, heureusement, beaucoup de gens qui ont du bon sens et qui ne souhaitent pas forcément vivre ces âges canoniques, mais par contre, mieux vieillir. Et le problème, c'est comment on s'entoure pour mieux vieillir, comment on lutte contre l'isolement qui accompagne un peu ces âges-là, comment on prend des décisions difficiles. Du point de vue médical, les choses ont considérablement évolué. C'est-à-dire que les décisions d'arrêt des soins dans un service de réanimation ou d'arrêt de chimiothérapie sur un cancer qui est en train d'échapper et tout, se prennent maintenant dans des choses qui, dans des comités, dans des commissions en staff, etc. Avec, c'est pas seulement les médecins, c'est aussi des psychologues, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même progressé là-dessus et que c'est pas quelque chose de frénétique, de non maîtrisé, de galopant, mais qu'on est au contraire plutôt en train de réfléchir collectivement à ces questions-là. Ensuite, ça c'est l'actuel. Je ne sais pas de quoi sera fait demain et comment on réfléchira dans 10 ans sur ces problématiques-là.
Si je peux faire un pronostic, je pense qu'effectivement on est en train de réfléchir collectivement, ou tout au moins il y a des assemblées de sages qui réfléchissent. Par contre, quand il s'agira de faire appliquer les décisions à un individu, il y a d'assez bonnes chances que dans de nombreux cas, l'individu y dise « Vous racontez ce que vous voulez, moi je veux vivre. Et je veux vivre bien et j'ai les moyens de me le payer. »
Oui, ça c'est très possible.
Sur le plan médical, j'ai vu des choses que la morale réprouve se produire d'une façon absolument phénoménale. On a parlé souvent du trafic d'organes venant de pays du tiers-monde dans lequel on ramenait des trucs comme ça, mais c'est une réalité, ce n'est pas un phénomène. Or, il y a des gens que ça ne gêne pas, hein, notre ami Norman Spinrad a quand même écrit un bouquin sur ce sujet, que ça ne gêne pas de prendre des organes d'enfants venant des Indes ou de pays où ils crèvent de faim pour eux prolonger un petit peu leur vie ou prolonger la vie de leurs proches. Ça ne leur pose pas de problèmes moraux. Ou tout au moins, ils partent du principe qu'il y a une chose qui est plus importante, c'est la survie de ceux qu'ils aiment ou d'eux-mêmes. Donc, mettez-y du big data, mettez-y la possibilité d'enfermer chacun dans un cocon de surveillance et de soins qui lui permettra d'aller plus loin, et on arrive potentiellement à une société qui sera très différente de celle qu'on connaît et qui, à mon avis, va avoir des effets inattendus.
Et du coup, comment on peut faire pour éviter le pire ?
Le pire, c'est que, encore une fois, on ne sait pas. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux. Je suis tout à fait d'accord de dire, OK, on va découvrir, par exemple, des gens qui vont pouvoir aller vivre dans l'espace. Si on arrive à le faire, à ce moment-là, on étend la barrière, etc., vers d'autres espaces. Pour l'instant, ce n'est pas du tout possible. C'est techniquement très, très loin de ce qu'on est capable de faire. Pour l'instant, on est sur une planète totalement surpeuplée, qui est en train de s'effondrer sous son propre poids, avec des phénomènes dus au réchauffement climatique ou d'autres, qui sont en train non pas d'atténuer les effets, mais d'amplifier les effets. Par exemple, j'ai travaillé avec les gens de la météo de Toulouse, à l'époque où je faisais des supercalculateurs, quand on faisait des modèles de prédiction du climat dans les années 90. On était persuadé que, par exemple, l'océan allait aider à absorber le surplus de chaleur. C'est pas vrai. Elle en crée plus. Que le permafrost, vous savez, cette fameuse bande de terre surgelée, allait, par le simple fait qu'elle dégelait, absorber une partie de la chaleur. Oui, mais en le faisant, elle produit du méthane et un certain nombre de choses qui accélèrent le phénomène. C'est-à-dire que le phénomène, loin de s'atténuer, a tendance à s'accélérer. Ça, on le sait, on le découvre, on est dedans. Donc, maintenant, si tu m'expliques que médicalement, on va sauver de plus en plus de gens, eh bien, est-ce bien raisonnable ? Je pose la question, hein. Je ne suis pas du tout prêt à mourir moi-même pour laisser la place aux autres. Mais la question, à un moment donné, va devoir se poser.
C'est sûr. Et à mon avis, ce qui va être au centre, c'est encore une fois la qualité de vie plutôt que l'augmentation de la durée de la vie. C'est peut-être ça qui est aussi une composante très importante à prendre en compte. Et on voit en fait les envies de voyager, les envies de découvrir des choses, de vivre plusieurs vies plutôt en une seule, qui sont peut-être une des façons de lutter contre la mort et contre les problématiques d'augmentation de la durée de la vie, mais plutôt essayer de, encore une fois, favoriser sa richesse, sa qualité et puis son caractère excitant.
Je propose d'arrêter là sur une note très optimiste plutôt, et laisser la parole aux personnes dans le public s'ils ont des questions à poser, et je vois que c'est le cas.
Je veux juste dire une petite chose, c'est que grâce à l'imagerie, et je t'en remercie de ce côté-là, on finit par regarder son propre corps comme un univers gigantesque dans lequel il se passe plein de choses. Et rien que pour ça, rien que pour des livres comme Le charme discret de l'intestin, par exemple, que j'avais trouvé fascinant, je me dis, OK, je ne suis pas une espèce d'intelligence à bord d'un vaisseau spatial, je suis une entité biologique constituée d'autres entités biologiques interagissant, et ça, c'est une vision que je trouve absolument formidable. Et rien que pour ça, je suis très très content de pouvoir me balader grâce à ces trucs à l'intérieur de mon propre corps et découvrir ce que je suis véritablement de l'intérieur.
Ça C'est vrai, merci. Mais c'est vrai qu'en plus, ces images sont très belles, et des images biologiques qui sont, je trouve, de l'art contemporain, finalement. Et de savoir qu'on est chacun, finalement, une petite planète à soi-même, c'est amusant.
Alors, nous avons une question.
Oui, bonjour. Où en est-on aujourd'hui entre la réalité et la science-fiction sur le fait de recevoir, d'avaler une de ces petites capsules là, qui récupérait un tas de données sur nous, les renvoyer à une société privée ou publique d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait prendre à ça, et qui nous renvoie entre parties suite à ça un médicament qui correspond vraiment pertinemment à nous, mais vraiment très de façon très précise par rapport à notre corps à nous, et qu'on arrête de nous donner des traitements qui ont été étudiés sur un panel de personnes globales, quoi. Donc qui correspondent à notre poids, à notre âge, à notre vieillissement de nos tissus, etc.
Alors la première partie de la question, le fait d'ingérer une capsule pour diagnostiquer des anomalies, ça existe en fait. Et il n'y a pas une capsule, mais plein de variétés. Il y en a qui sont plutôt pour la partie haute du tube digestif, d'autres pour le milieu, d'autres pour la faim. Elles ont des composantes, des caractéristiques techniques qui les différencient légèrement les unes des autres pour essayer d'être meilleures dans certaines situations, notamment chez les gens qui ont de l'inflammation, par exemple une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Il y a des capsules un peu spécifiques. Il y a aussi la possibilité, et c'est émergent pour l'instant, de rapporter effectivement des échantillons, c'est-à-dire pas seulement des images, mais effectivement des petits échantillons de tissus ou de microbiote. Par contre, et pour la dernière, je dirais le dernier tiret de cette première partie, il y a, pour l'instant, tout est public, c'est-à-dire c'est le médecin qui fait l'examen, qui interprète le résultat, mais commence l'exploitation, je dirais, extérieure des données avec une société notamment chinoise qui propose une interprétation sur une plateforme online par des gens qui ne sont pas forcément médecins, parce que pour reconnaître des images, on peut tout à fait être une sorte de technicien spécialisé qui interprète et qui répond. Alors l'avantage, c'est l'hyper-réactivité. Vous envoyez le film le soir, eux, ils commencent leur journée et puis ils vous renvoient le truc. Vous vous réveillez le lendemain, vous avez le résultat. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Par contre, de le lier directement au traitement et de façon, je dirais, la plus adaptée, la plus individuelle possible, c'est quelque chose qui est une piste de travail. Ça commence. Il y a des collaborations, d'ailleurs, entre le CHU et puis les chercheurs de Central Land, par exemple, ou le LS2N. Et donc, on commence à réfléchir à des programmes d'intelligence artificielle là-dessus, mais ce n'est pas encore une réalité. C'est encore de la science-fiction. Par contre, je pense que ça sera une réalité dans un délai de 2-3 ans et que c'est quelque chose qui va arriver relativement vite.
Et ça se baserait plutôt, d'ailleurs, je pense, sur des analyses biologiques que sur des analyses d'imagerie. C'est-à-dire, si tu veux savoir quel est un médicament adapté à ton type de diabète, par exemple, ce sera basé plus sur des analyses sanguines ou des analyses d'urine, etc., etc., que sur une promenade à l'intérieur de ton pancréas, même si les îlots de Langerhans jouent un rôle important là-dedans. Donc, ça peut être possible. Par contre, je te renvoie à une question un peu philosophique. Est-ce que tu crois être si différent des autres ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le médicament qui marche pour les autres ne marcherait pas pour toi ? Et la question qui se pose, c'est, il y a des cas, effectivement, où on a des biochimies particulières et où il faut les adapter. Mais pour l'immense majorité des gens, on se ressemble.
C'est vrai. Alors, ensuite, je crois que c'est souvent plurithématique. Je vais vous laisser répondre, mais c'est souvent plurithématique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs outils. C'est-à-dire que c'est une combinaison d'imagerie et d'outils biologiques qui vont arriver au mieux à mieux définir le profil du patient. Ensuite, c'est vrai que il y a généralement plusieurs catégories de patients et plusieurs grandes cases, pas une seule grande case, plusieurs grandes cases. Et effectivement, c'est la courbe de Gauss, hein. De temps en temps, il y a des gens qui sortent complètement du modèle et qui ont vraiment des caractéristiques très particulières. Statistiquement, c'est très faible. Mais je vous laisse répondre, bien sûr.
Oui, effectivement, d'un point de vue biologique, je suis tout à fait le même que vous. Après, j'ai pas le même poids, j'ai pas la même corpulence, j'ai pas le même degré de je sais pas, la densité graisseuse ou plein de choses qui peuvent influencer sur la façon dont le médicament va être absorbé, va agir derrière. Donc c'est sur ça que je souhaite individualiser l'action du médicament. Par exemple.
Mais là, il y a un modèle commun. C'est-à-dire que le modèle qui varie, par exemple, sur une certaine plage de poids, sur une certaine plage d'âge, sur une certaine plage d'un certain nombre de paramètres, peut entraîner de dire, effectivement, au lieu de prendre 15 grammes de ce produit sur le mois, tu vas n'en prendre que 12,5. Par contre, tu vas compléter par 3 grammes de tel autre produit. Ça, je dirais que d'une certaine façon, ça pourrait être possible. Le seul problème, c'est d'arriver à ce que le médicament pratiquement soit fabriqué chez toi. La difficulté, ouais. C'est pas de fabriquer la chose qui te concerne, c'est de la fabriquer à un coût et dans des conditions pratiques faisables. Par contre, tu es par exemple dans un hôpital parce que tu as une infection foudroyante, on va se poser la question de certains cocktails d'antibiotiques qui vont être fabriqués à la main par la pharmacie de l'hôpital sur place en fonction de ton propre besoin. Mais c'est un cas très particulier. Je veux dire, sinon, effectivement, on pourrait imaginer qu'un médecin est capable de te dire tu prends 3/4 du médicament. Mais alors là, il faut avoir un appareil à couper les médicaments en trucs. Enfin, on peut imaginer, peut-être qu'on peut imaginer des systèmes de poudre où le pharmacien délivrerait des gélules avec un certain poids. On peut arriver, mais la grande question, elle est économique. Elle est d'un point de vue pratique et de faisabilité, comment on fait ?
On pourrait lier ça à une imprimante 3D dans les pharmacies ?
Peut-être ça aussi. Ou peut-être parce que c'est déjà extrêmement difficile à faire pour tes fringues. Qui ne sont pas des produits particulièrement compliqués, mais te couper des fringues directement à ta taille à toi, c'est compliqué. Même si on a une image 3D de toi particulièrement valable qui permettrait d'ajuster finement, la question c'est comment pratiquement on le fait ? Comment est-ce que la machine qui fabrique ton pantalon ou ton t-shirt arrive à le faire ? Ça c'est compliqué. Mais après tout, comme tu dis, avec les imprimantes 3D, pourquoi pas ? Mais là on est dans la science-fiction.
Par contre, malheureusement, on n'aura pas l'occasion de prendre une deuxième question parce que la table ronde se finit, il faut laisser la place. Mais je vous invite déjà à venir sur le site, sur le stand pardon, de l'INSERM, peut-être en discuter avec vous si vous êtes disponible sur le salon. Et en discuter également avec Jean-Claude Dugnac qui sera en dédicace à 15h. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et qui était très éclairante.
Merci beaucoup.